Les rencontres d'Edmond Morel. Anne Richter, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de La Route du sel et autres poèmes. C'est un recueil qui est republié dans une collection qui ressuscite et qu'on doit saluer, la collection Orphée, publiée par La Différence. Alors, en premier lieu, avant d'entrer dans le livre avec vous, j'aimerais que vous évoquiez ce qu'est cette collection Orphée qui, finalement, remet à l'ordre du jour la poésie et notamment dans une collection ou de multiples auteurs francophones s'y trouvent.
Mais c'est une merveilleuse petite collection, d'abord parce qu'elle est dirigée par Claude Michel Cluny, qui est un grand poète, un grand critique littéraire parisien, qui a eu l'excellente idée de faire cette collection qui n'est pas seulement une collection de grands poètes, de grands classiques, on les trouve aussi dans cette collection, mais aussi de poètes, d'œuvres traduites, retraduites, introuvables et retrouvées, classiques ou contemporaines, familières ou méconnues. Et c'est ainsi qu'on peut trouver des poètes de tous les temps, de tous les pays, mais qui ont tous une singularité très forte et une grande modernité aussi. Voilà.
Alors, viennent d'être republiés, entre autres, 8 volumes consacrés à des poètes belges, dont Roger Bodin, votre père, pour lequel, dans ce recueil, auquel vous consacrez un texte de présentation. Alors, il y a une chose qui m'a frappé dans ce texte de présentation, c'est le fait que, d'une certaine manière, vous avez assisté à la naissance de ce poème, La Route du sel, et que c'est comme une sortie d'un très long silence. J'aimerais que vous me racontiez comment...
La genèse.
Comment vous avez vu, vous, oui, votre père, écrire ce poème?
Oui, ce n'est pas facile parce que c'est une œuvre très complexe et très déconcertante au premier abord. En fait, peut-être doit-on partir du titre, parce que La Route du Sel évoque l'alchimie, hein. Auquel s'était intéressé beaucoup mon père. Et le sel alchimique, en fait, c'est l'élément transformateur. Et que raconte la route du sel? C'est la transformation radicale d'un homme. La route du sel, c'est une déflagration énorme, c'est une explosion extraordinaire, une explosion sur divers plans, une explosion planétaire, c'est un peu mystérieux, mais aussi l'explosion d'un homme, l'explosion intérieure. Et alors là, Roger Bodin disait d'ailleurs, c'est l'histoire d'une préhistoire bien plus ancienne que celle de la préhistoire. Et cette suite de textes étranges, je me souviens très bien de l'époque où il l'a écrite. Il a écrit ça très vite, dans une période de fièvre de création, comme ça continue. Il a écrit ça en quelques semaines, après une longue période de silence. Il a écrit ça en 64. C'était la pleine maturité pour lui. Il avait 54 ans. Ce qui est étrange, ce qui est surtout étrange, indépendamment du style entièrement nouveau pour lui, qui est très moderne, très abrupt, qui n'est plus du tout le style assez romantique qu'il avait avant, c'est que dans cette route du sel, il crie, il hurle qu'il est le néant. Il y a une sorte d'autodestruction absolument radicale et furieuse dans cette œuvre. Et cette autodestruction, évidemment, a étonné ses contemporains, et à juste titre, parce que l'homme Bodard, le poète qu'ils avaient connu avant La Route du sel, c'était tout sauf un poète destructeur et nihiliste. Il n'avait rien d'un Antonin Artaud. Et pourtant, chose curieuse, en exergue de La Route du sel, il y a des vers d'Antonin Artaud, ce qui est très significatif. Il était, je dirais, pour ses contemporains, l'anti-Antonin Artaud. Ses amis en ont très bien parlé. Il a eu un rôle social prépondérant. Il a été nommé en 46 après la guerre par le ministre de la Culture Camille Leusmans. Il a été nommé directeur du service de la promotion des lettres. Et à l'époque, c'était un poste qu'on a créé pour lui, où il avait beaucoup beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que les directeurs de ce service actuel. Il a été nommé à l'Académie en 52. Il était à l'époque le Benjamin de l'Académie de littérature. Il avait 43 ans. C'est assez extraordinaire. Il a été un personnage clé de la vie littéraire belge pendant, je dirais, plus de 25 ans, puisque sa nomination en tant que directeur du service des lettres, c'est en 46, il est mort en 73, faites le calcul, ça fait plus de 25 ans.
Est-ce que cela veut dire que ça rend d'autant plus incompréhensible cette espèce de fulgurance, d'attraction vers le néant qu'il dévoile en quelque sorte dans La Route du sel?
Mais apparemment, oui. Mais parce que là, il y a une remise en question totale d'un homme qui avait fait une carrière plus qu'honorable, qui avait publié des poèmes, une poésie reconnue, de façon très élogieuse. Donc il y a là apparemment un mystère. Et pourtant, si l'on revient justement peut-être au titre, c'est-à-dire le titre alchimique, il y a là... quand on étudie davantage son parcours de façon plus précise et plus intérieure, je dirais, son itinéraire intérieur, il y a au fond il obéit à une loi alchimique qui dit il faut, pour se réaliser, il faut exploser pour renaître. Exploser pour renaître, c'est une formule qu'il reprend dans sa poésie. Remarquez d'ailleurs que ça n'est pas très éloigné non plus du principe d'individuation de Carl Gustav Jung, le grand psychanalyste de la psychologie des profondeurs, qui était pénétré d'alchimie. Ce n'est pas non plus très éloigné de la pensée de Chestov, cet étrange philosophe russe qui est mort, si mes souvenirs sont bons, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et dont se sont pénétrés toute une série d'intellectuels de la génération de mon père. Et même un peu avant, il y a eu André Breton, il y a eu Sartre. Et Chestov avait écrit un curieux petit livre que j'ai retrouvé dans la bibliothèque de mon père, qui était abondamment annoté, qui s'appelle « Les révélations de la mort ». Et qu'est-ce que c'était, ces révélations de la mort? Eh bien, la mort, selon Chestov, révèle une vérité paradoxale. C'est-à-dire que elle contredit, l'approche de la mort contredit la hiérarchie de valeurs communément admise par la société humaine, c'est-à-dire que les honneurs, les richesses, les œuvres sont des choses de peu de valeur. Seul compte la survie spirituelle. Et là, évidemment, je crois que c'est là la révolution spirituelle de La Route du sel. C'est justement voilà le rejet de toute cette ancienne vie pour atteindre une vie spirituelle. Je crois c'est là la véritable démarche de La Route du sel.
Vous racontez d'ailleurs dans la préface que ce livre de Léon Chestov, dont je rappelle le titre « Les révélations de la mort », était un livre de chevet, mais au point tel qu'il était annoté de toutes parts par votre père. Alors, quand vous avez découvert que les annotations et ce qu'il avait retenu, est-ce que vous avez trouvé là peut-être une explication, mais peut-être une intuition?
Oui, incontestablement, au point que d'ailleurs ma préface s'appelle « Roger Baudard ou les yeux de l'ange ». Chestov, d'ailleurs, rappelle une tradition russe étrange qui est celle de l'ange de la mort. C'est-à-dire que l'ange de la mort, selon cette tradition, est un ange couvert d'yeux. Et quand il s'approche d'un être humain, pour l'enlever, donc pour le prendre avec lui, il arrive parfois qu'il trouve que son terme n'est pas encore là, que l'homme doit encore rester sur cette terre. Et donc, il s'en va, il ne se manifeste même pas à lui, mais il lui laisse une de ses pères dieux. Et cette pères dieux de l'ange de la mort contredit entièrement ce que je viens de dire, les réalités de la vie matérielle, les réalités de la vie quotidienne. Et donc, voilà. Mais en fait, je vous dirais, vous m'avez demandé si ça m'étonnait. Non, non, en fait, j'ai quand même été très proche de mon père, très proche depuis mon enfance. Et je savais qu'il y avait, que c'était un homme double, disons. Il était ce personnage social, un homme affable, cordial, extrêmement chaleureux, toujours à l'écoute des autres. Ça, je crois que tout le monde pourra le dire. Et en même temps, un homme secret. Un homme qui était habité, je dirais, par une subversion secrète. Voilà, exactement. Mais c'était secret. C'était pas du tout un homme provocateur, révolté, violent. Non, non, il était juste le contraire. C'était une subversion secrète qu'il habitait et que connaissaient, je dirais, les gens qui ont été très proches de lui. Voilà. Donc, en un sens, la route du sel est l'aboutissement logique d'une évolution personnelle. Qu'on connaissait quand on était son intime, mais qui est inscrite aussi, au fond, dans son œuvre. Dans son œuvre, qui le rend proche de certains poètes fascinés par la mort, comme je dirais, comme Rilke, comme Materlin, comme Hölderlin, voilà.
Alors, est-ce qu'on pourrait avancer une hypothèse selon laquelle cette double vue que donne l'ange de la mort dans le livre de Chestov et qui l'a si fort frappé serait une espèce de parabole de ce qu'est la poésie, c'est-à-dire la poésie serait le cheminement qui seul permet d'aller à ce point ultime dont on revient avec la poésie.
Ah, mais je crois que vous avez tout à fait raison. C'est peut-être une définition romantique de la poésie, mais comme dirait mon père, le romantisme est éternel. Et je crois que la poésie conçue de cette façon permet au poète de se dire, mais pas de façon narcissique, de se dire en parlant d'autre chose que de lui-même, voilà, en parlant de l'univers. C'est la poésie cosmique, au fond, hein. C'est la poésie de la nature aussi, de certains poètes. Voilà, oui.
On peut dire que c'est un écrivain, un poète, qui a aussi été frappé dans cette route du sel, notamment, par le retour aux origines avant la préhistoire, avant l'existence même, mais aussi dans la projection d'un futur apocalyptique, notamment marqué par l'émergence du nucléaire. Or, ce texte est écrit en 64, donc bien longtemps après Hiroshima et Nagasaki. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est déclenché à ce moment-là, qui fait que certaines des phrases, certains des vers de ce poème sont autant des prémonitions que la manifestation d'une crainte de ce qui aurait pu se passer?
Mais écoutez, je crois que, à la limite, je dirais que tout vrai poète est souvent prophétique. Et il y a là, c'est évident, une poésie prophétique. Quand vous me disiez tout à l'heure, quand on lit ces vers, c'est étonnamment moderne. Ils auraient pu avoir été écrits aujourd'hui. Et c'est tout à fait vrai. Et si vous voulez, pour faire parler Roger Baudard mieux que moi sur ce sujet, je tombe ici sur quatre lignes de ma préface, où il dit ceci: il faut parler d'autre chose que de soi pour arriver à se dire de façon essentielle. Je ne dis jamais pour dire. La poésie n'est pas seulement dans les livres, elle n'existe même que subsidiairement dans les livres. Les livres des poètes ne sont que l'écho très affaibli de la prodigieuse poésie qui existe dans les choses, dans les êtres, dans l'univers tout entier. L'étrange résonance de certains poèmes leur vient certainement de ce qu'ils plongent dans cette région de l'âme qu'on pourrait appeler la caverne des ancêtres. Voilà, ça répond très bien, je crois.
C'est un extrait des Cahiers bleus.
C'est ça, exactement. C'est un extrait, oui, des Cahiers bleus, mais c'est un extrait d'une conférence qu'il n'a jamais publiée, en fait. de carnet intime.
Mais là, les choses sont clairement exprimées.
Absolument.
On est à l'origine des choses et on est dans la prophétie.
Oui, et en plus aussi, je dirais, la poésie est une manière d'être. On dépasse infiniment une esthétique. La littérature est ici beaucoup plus que la littérature. C'est une manière d'être, une manière de comprendre l'univers, une manière de s'orienter dans l'univers. Voilà. Et là, il était profondément comme ça. Tous les gens qui l'ont, je viens ici en vue de cet entretien de relire les numéros de Marginal. Bon, que vous connaissez bien, n'est-ce pas ?
Deux numéros, dont l'un consacré... Deux numéros consacrés à Roger Bonnat.
Deux numéros d'hommage. Et c'est extraordinaire, les gens très connus qui ont parlé de lui, comme Jean Cassou, comme Alain Bosquet, comme Naïm Kattan, comme Charles Muller, Charles Bertin, Jean Tordeur, insistent tous justement sur ce côté très humain du personnage qui vivait sa poésie. Mmh. Voilà. Je ne pourrais pas vous en dire plus, mais ce sont des numéros absolument passionnants à relire.
Qu'il faudrait d'ailleurs rééditer. Nous en parlerons au directeur de la revue, Jacques Dedecker. Alors, l'autre point sur lequel, lorsqu'on parle de poésie, on ne peut pas ne pas s'arrêter, c'est la forme. Ce qui est étonnant dans ce recueil, c'est que autant la vision est hallucinée, autant elle est d'une force lyrique extraordinaire, sa force est décuplée par le côté formel extrêmement contenu, extrêmement maîtrisé.
Vous avez tout à fait raison. C'est une réalité incandescente qui est exprimée avec une rigueur, avec une vigueur, avec une connaissance de la métrique poétique extraordinaire. Et là, c'est étonnant. Je dirais que c'est presque un miracle à la limite. Hein. Et là, je dirais que c'est sa différence avec certains poètes modernes qui auraient écrit ça. Bon, ce serait une explosion de cris, de hurlements, de mots chaotiques. Ici, c'est pas du tout. C'est le chaos exprimé avec une rigueur et une clarté étonnante. Alors là, je crois qu'on ne peut expliquer ça que par le miracle poétique, justement, le miracle de l'inspiration poétique, qui est à la fois rigueur et abandon.
Est-ce qu'on pourrait faire une sorte de comparaison avec la peinture, entre ce qui aurait été une peinture abstraite et ce qui est une peinture extrêmement figurative, la deuxième étant la poésie formelle telle que Roger Baudin l'écrit, la première, la peinture abstraite, étant ces explosions que vous évoquez, que d'autres auraient pu utiliser?
Mais écoutez, c'est très difficile de répondre à ça, parce que quand on lit La route du sel pour la rapprocher de la peinture, justement, il y a des images étonnamment abstraites là-dedans, et il y a aussi des images très concrètes. Donc ça dépend, il faudrait vraiment approcher des poèmes, lire peut-être un petit poème si vous voulez.
Écoutez, est-ce que je peux vous lire un des passages que j'ai coché? Quelqu'un me dit tout bas que je devrais me taire, je croyais être seul, je parlais devant vous qui parle, n'est-ce pas une âme de caillou qui crie « Hiroshima, demain sera la terre ». Alors là, on a en même temps le lyrisme et en même temps cette réalité effrayante.
Absolument. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais, c'est une poésie éternelle, il y a une intemporalité absolue et en même temps quelque chose de très actuel. Mmh. Hiroshima, moi je tombe sur quelque chose ici de très étrange où au fond il évoque une espèce de vie intra-utérine, dormant longtemps, en rond, lové dans des entrailles fades, tétard suçant la vase d'un marais, se goûtant, en soi-même enroulé comme l'est la couleuvre cachée en sa cotte de maille, dans une mer antérieure, roc, varech, poulpe, lagune suspendue où bâille une tulipe anthropophage, une forêt de chênes en de druidites cornouailles, vulve, ventre que fort. C'est-à-dire, il y a là, c'est presque de la peinture surréaliste, mais c'est aussi, c'est beaucoup plus que ça, quoi.
C'est vrai que les druidiques cornouailles, comment aurais-tu pu mieux raconter l'espèce d'enchantement dans lequel on peut se trouver.
Oui, absolument. Et alors, par ailleurs, c'est très curieux, parce que quand on redit comme ça ces trous du ciel, il y a des passages où tout à coup, il retrouve sa musicalité, parce que sa poésie était très musicale avant La route du sel. Il y a une rupture brutale de style qui fait que cette musicalité semble avoir été perdue. Et puis tout à coup, on la retrouve dans certains poèmes d'amour, parce qu'il y a des poèmes d'amour aussi dans La route du sel. Quand il dit par exemple « Je dis cher, et je crois que vous n'écoutez guère. Vous partez au galop sur votre alezan gris. Vous allez à la chasse, et je suis à la guerre. Si vous n'entendez pas, comment être surpris ? Mon sang bat le tambour, le canon seul écoute. Cher, pourquoi penser aux choses qui sont loin ? Je demande à ma gourde une dernière goutte. Faisons l'amour avec une botte de foin. La vie est simple, à qui la voit simple ? La drôle ne propose à chacun que de jouer son rôle. Appelons un chat, appelons chat un chat. Boileau sera content. Cher, vous êtes loin. Peut-être êtes-vous morte. Lorsque je cognerai un soir à votre porte, referons-nous la bête à deux dos comme avant ? Là, il y a de nouveau une irruption de la vie personnelle, de la vie charnelle, de la poésie musicale. C'est très curieux, il y a plusieurs accents dans La route du sel.
Alors, on évoquait des poètes qui auraient pu s'apparenter dans l'inspiration à lui. On n'a pas parlé de Rimbaud. Alors, je vais vous lire encore quatre vers. « Où s'en va devant moi ce passé qui dansait ? La fable naît ailleurs que je croyais finie. Me taire, m'arrêter, le pourrais-je ? Qui sait ce que Rimbaud trouva dans son Abyssinie ?» Et là, évoquer Rimbaud dans l'Abyssinie, c'est évoquer Rimbaud après la poésie.
Absolument. Mais je crois que ce qui pourrait, disons, le rapprocher de Rimbaud, quoi qu'il est quand même fort différent de Rimbaud, et comme parcours et comme psychologie, c'est évidemment le côté révolutionnaire. Il y a un côté profondément révolutionnaire, profondément subversif dans La route du sel. Ça, c'est son côté rimbaldien. Mais tout de même, l'homme n'était pas rimbaldien. L'homme n'était pas rimbaldien.
Vous disiez que vous avez été un enfant, une adolescente et une adulte très très proche de votre père. Très. Dans quelle mesure et comment vous parlait-il de sa poésie s'il le faisait ?
Écoutez, mon père était un homme tellement enfoncé dans un bain de poésie. D'abord, il était poète à tous les instants. Je dirais, il vivait en poésie profondément. Il parlait relativement peu de poésie, parce que c'était un homme très concret et très, très proche de chacun. Mais je ne sais pas, il écrivait des poèmes tout le temps, n'importe où. Il écrivait des poèmes sur des cartons à bière, sur des enveloppes. J'ai retrouvé dans sa bibliothèque des enveloppes de lettres. Il avait écrit un poème derrière, des feuilles ministérielles. Derrière, au verso de la feuille, il y avait un poème. Des choses comme ça. C'est-à-dire, il écrivait tout le temps des poèmes. Et il les disait souvent, comme ça, en famille, parce que ma mère était très proche de lui aussi, elle était écrivain également. Donc, je dirais qu'à 3 ans, quand je jouais par terre sur le tapis, j'entendais au-dessus de moi des poèmes qui flottaient, quoi. Voilà. Alors, vous me direz, quand on a été à ce point baigné dans un bain de poésie, je crois qu'il y a 2 attitudes possibles. Ou bien, à la puberté, on rejette rageusement tout ça pour faire quelque chose de radicalement différent et s'affirmer comme ça. Ou bien, ça finit par faire partie tellement de vous qu'on reste dans ce domaine, mais en essayant de trouver une expression personnelle, évidemment. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, quand même, ma seule petite... c'était pas une révolte, mais enfin, ma seule petite distanciation, et celle-ci, c'est que quand j'étais enfant, j'écrivais des poèmes. Et puis, un jour, à l'adolescence, je me suis mise à écrire des nouvelles. Et là, bien sûr, je les ai données à mon père, puisque j'avais entière confiance en lui. Et il m'a dit, mais écoute, il n'y a pas à changer une virgule, parce qu'il n'a jamais changé la moindre chose à mes textes, ça je le jure, sur sa tête. C'est parfait, mais Il m'a dit doucement, « Tu n'écriras plus de la poésie ?» Et je lui dis, « Non, moi j'écris de la prose. » Et c'est vrai, je n'ai jamais écrit un poème.
Est-ce que, parce qu'on sait qu'en tant que romancière et nouvelliste, vous êtes attirée, de même que comme essayiste d'ailleurs, vous êtes attirée par la littérature fantastique. Est-ce que c'était une manière pour vous d'inclure quand même la poésie dans la prose ?
Tout à fait, c'est une excellente question. Je crois, et je suis très heureuse que vous me la posiez, je crois que ma conception du fantastique, c'est certainement pas le fantastique d'horreur qui sévit trop aujourd'hui, c'est un fantastique poétique, c'est-à-dire un fantastique d'exploration intérieure, au fond, la même démarche que la route du sel, finalement. Ça se rapproche très fort, dans le domaine fantastique, voilà.
C'est une manière aussi de résoudre cette révolte que vous avez manifestée à l'égard de votre père. Alors j'aimerais qu'on termine cet entretien en vous proposant la lecture de la fin du poème qui porte le titre « La route du sel ». Et j'aimerais que vous commentiez ce dernier vers. « Comme est long, comme est lourd ce métier de paraître, de finir comme un pain au fond du four banal, ce souci de remplir une forme, et puis d'être un peu de sang que boit la page d'un journal, page 81. Peu de sang que boit la page absolument, d'un journal.
Oui, absolument. C'est le dernier poème de La route du sel qui est de nouveau, il faut le dire, un poème en vers régulier, un poème qui est une sorte de bilan de vie. Et René Lacôte, qui a fait ce journaliste français qui a fait une très belle préface à La route du sel, dit que selon lui, ce poème, le dernier de La route du sel, a peut-être été écrit avant les autres. Eh bien, il avait tout à fait raison. Je me souviens qu'il avait écrit ce poème, bilan de la cinquantaine, avant La route du sel. Et donc, vous voudriez que je lise la dernière page.
Pas que vous la lisiez, que vous la commentiez. Et puis d'être un peu de sang que boit la page d'un journal.
Comme est long, comme est lourd ce métier de paraître, de finir comme un pain au fond d'un four banal, ce souci de remplir une forme, et puis d'être un peu de sang que boit la page d'un journal. Ben oui, mais là, je crois que c'était tout à fait lui aussi, c'est-à-dire ce désir d'une autre vie, d'une autre identité, plus profonde, plus intérieure. Et puis, malgré tout, ce long métier de paraître, puisqu'il l'a exercé très activement pendant plus de 25 ans, et il a donc rempli sa forme sociale, comme il le dit. Et puis, eh bien, il a été un peu de sang que boit la page d'un journal, c'est-à-dire que le lendemain de sa mort, il y a eu cet article dans Le Soir qui annonçait sa disparition. Donc voilà, c'est de nouveau tout lui, quoi.
Anne Richter, je vous remercie pour cet entretien que l'on pourra prolonger en parlant de l'ensemble de l'œuvre de Roger Baudard à l'occasion. Je tenais aujourd'hui à ce qu'on évoque ce livre qui maintenant est disponible à nouveau dans la collection Orphée, publiée à La Différence, avec toute une collection de poètes, parmi lesquels figure à sa juste place Roger Baudard pour La route du sel et autres poèmes parus à La Différence, donc avec une présentation par René Lacôte et une postface de vous-même, Anne Richter, qui est la fille de Roger Baudard et également écrivain. Merci Anne Richter.
Merci à vous aussi.
Les rencontres d'Edmond Morel.